grap.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et avec Culture Média au menu. Média et culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, tiens, de la BD, tu ne tueras point. Et un voyage culinaire, ça n'a aucun rapport, autour du citron. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct. Évidemment, vous pourrez podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre infomédia va s'intéresser à une parole rare. Après des actes très violents, des braquages de banques, de bijouteries, de fourgons blindés, 6 membres du grand banditisme parlent à visage découvert dans un documentaire produit par Karine Lemarchand pour M6. Aucun d'entre eux n'a tué, mais tous ont écopé de très longues peines de 18 à 70 ans. Nous serons dans ce studio avec l'un de ces ex-braqueurs et la réalisatrice Delphine Signé. Ça y est, enfin, c'est l'Euro de football 2020 qui débute ce soir en 2021. Ce sont TF1 et M6 qui se partagent les matchs en clair. Nous recevrons un duo inédit de commentateurs en marge de la paire Margoton-Lisa Razou, le journaliste Julien Brun et l'ancienne joueuse internationale Sabrina Delannoy. C'est la première fois qu'une femme est consultante pour des matchs masculins sur une grande chaîne. Lui demanderont si c'est un événement ou au contraire, si c'est un non-événement. Enfin, la chanteuse Clara Luciani, là c'est un événement. 2 victoires de la musique, 300 000 albums vendus, ce titre La Grenade qui est devenu un hymne dans les manifestations féministes. Son 2e album sort aujourd'hui, il s'appelle Cœur et on est très heureux qu'elle ait choisi Culture Média pour le présenter. On entendra 2 titres dont un duo avec Julien Doré. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Louise Bernard, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel. Bonjour
Antoine Genton, bonjour.
Salut Philippe.
Bonjour à tous. Au sommaire, Antoine, de votre journal des médias.
Un accord en vue pour les droits du championnat de France de football. Des journalistes à nouveau arrêtés en Algérie à quelques heures des élections législatives. Et puis retour sur la carrière d'une des plus grandes actrices et réalisatrices américaines, Jodie Foster.
Mais d'abord, les audiences avec vous, Louise Bernard. Qu'ont regardé les Français hier soir?
Ils ont regardé la rediffusion du téléfilm Meurtre en pays d'Oléron sur France 3, diffusé pour la 3e fois et toujours du monde devant la télé.
Incroyable.
3 560 000 téléspectateurs, 17,9% de part d'audience devant ce téléfilm où on voyait Michel Cymes pour la première fois acteur, le téléfilm qui date de 2018 maintenant. Deuxième, TF1, c'était la fin de sa série française Luther qui finit en baisse, largement en baisse, même 2 750 000 téléspectateurs devant les 2 épisodes inédits, 15% de part d'audience seulement. Puis c'est France 2 avec Envoyé spécial, 2 100 000 téléspectateurs, 10,7% de part d'audience. L'émission est dans sa haute moyenne. À noter sur M6, un petit score pour le film Tamara, 1 690 000 téléspectateurs, 8,7% de part d'audience et aucune chaîne ensuite au-dessus du million.
Culture Média.
Il fait trop beau maintenant pour passer le million et les restaurants sont ouverts. Non mais c'est vrai, évidemment,
bah
c'est
oui,
mécanique.
C'est
et vous avez
depuis 23h.
Le journal des médias avec vous maintenant, Antoine Genton, avec à la une. On devrait connaître dans la journée le nom des diffuseurs du championnat de France de football pour les 3 prochaines saisons.
Et tout porte à croire que ce seront Canal+ et Bein Sport. Un accord pourrait être trouvé et signé dans la journée. La Ligue de football professionnel a même convoqué un conseil d'administration à la mi-journée. Dans le détail, Canal+ diffuserait les 2 meilleurs matchs de chaque journée, le samedi après-midi et le dimanche soir. Les autres rencontres seraient retransmises sur une chaîne dédiée, éditée par Bein Sport et financée à égalité par Bein et par Canal. La Ligue toucherait alors au moins 600 millions d'euros par an, 650 en comptant quelques bonus. Moitié moins quand même que la somme envisagée il y a 3 ans, avec l'entrée totalement ratée de Mediapro, on en a longuement parlé ici même. Cela dit, selon les Échos ce matin, Amazon pourrait aussi faire une proposition, mais ce n'est vraiment pas l'hypothèse qui semble privilégiée.
Dans l'actualité des médias encore, un petit événement pour les fans de foot.
France Football change de périodicité, fini l'hebdomadaire, place au mensuel à partir de demain avec Kylian Mbappé en une. Et pour l'occasion, le magazine change de formule, des sujets volontairement détachés de l'actualité et un papier de meilleure qualité, bref un positionnement plus haut de gamme, c'est important pour les annonceurs. Ces changements sont liés à la chute des ventes de France Football, moins 30% en 4 ans, 57 000 exemplaires l'an dernier contre 80 000 en 2017. Et il s'accompagne aussi d'une réduction des effectifs, divisée par 4. Une décision qui avait été l'une des causes de la grève menée en janvier dernier au sein du groupe L'Équipe et le groupe L'Équipe à qui France Football appartient.
France Football sera désormais disponible chaque 2e samedi du mois avec le journal L'Équipe. 4,30€ cet été et 5,10€ à la rentrée.
Un record pour le futur magazine scientifique Epsilon, dont la naissance avait été annoncée dans Culture Média il y a un mois. Record de pré-abonnement sur la plateforme Ulule. Un peu plus de 45 45 500. La campagne s'est terminée hier, 45 500, alors que l'objectif initial était de 1 500. Le premier numéro d'Epsilon doit sortir dans 2 semaines.
Des journalistes à nouveau arrêtés en Algérie hier, à 2 jours des élections législatives.
Parmi eux, il y a Khaled Rareni, selon Reporters sans frontières, dont il est le correspondant en Algérie. Ce journaliste indépendant, qui travaille également pour TV5 Monde, est injoignable depuis hier soir. Il était en liberté provisoire, en attente d'un nouveau procès, après avoir passé plusieurs mois en prison et après avoir été condamné à 2 ans de prison ferme l'automne dernier.
Antoine, le focus programme du jour, c'est la soirée spéciale Jodie Foster après-demain sur Arte.
Un film, Summersby, l'adaptation américaine du retour de Martin Guerre, puis un documentaire sur la carrière de l'actrice et réalisatrice, de sa première publicité à l'âge de 3 ans seulement, à ses plus grands rôles, notamment celui qui l'a fait connaître, celui d'une prostituée dans Taxi Driver. Un parcours remarquable qu'elle doit à son talent, à son intelligence, mais aussi au fait qu'elle est née à Los Angeles, à Hollywood, et qu'elle y a grandi. Yael Sadat, le co-réalisateur du documentaire.
Elle connaît les codes depuis toute petite, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans cette espèce de creuset, avec toute la mentalité qui consiste à se mettre en scène, à gérer sa propre image. Tout ça, elle le comprend instinctivement dès l'âge de 3 ans. Donc, elle s'en écarte. Elle réussit à prendre de la distance extrêmement vite, puisque tout ça est naturel pour elle. Là où beaucoup d'acteurs, en fait, qui arrivent à Hollywood, disons un peu plus tard dans l'enfance, ou bien même adultes, eux, en fait, passent leur vie à courir après, disons, cette autogestion, cette manière de réussir à se mettre en scène, à se créer un personnage. Elle a son personnage, son image est déjà installée dès l'enfance.
Et sa connaissance d'Hollywood la pousse aussi à rester discrète sur sa vie privée. Elle ne révèle jamais ses opinions politiques, elle ne parle jamais de sa sexualité, bien loin donc des habitudes d'autres figures d'Hollywood.
Cette culture du narcissisme et de la célébrité, elle la connaît depuis toute petite. Elle a été même traumatisée par cette nécessité de s'exposer. Lorsque la polémique du silence des agneaux survient, on lui reproche de participer à un film qui diaboliserait la communauté LGBT. La somme de révéler son homosexualité, et ça c'est quelque chose, elle tient au contraire, c'est-à-dire à choisir de révéler ou pas les aspects de sa vie privée, c'est quand même quelque chose de salvateur, d'avoir des acteurs qui, tout en restant au centre de l'industrie, refusent de jouer le jeu pervers de la constante surexposition de soi.
Il est donc avant tout question, vous l'avez compris, de la filmographie de Jodie Foster dans ce documentaire, de ses rôles, de ses réalisations, le tout raconté par Mathieu Kassovitz. Il a accepté, car il doit beaucoup à Jodie Foster. C'est elle qui l'avait aidé à faire la promotion de son premier film, La Haine, aux États-Unis. Elle donc, qui a contribué à sa renommée internationale. Jodie Foster, qui par ailleurs, vous le savez peut-être, est parfaitement francophone, recevra une palme d'or, une palme d'or d'honneur le mois prochain au Festival de Cannes. Jodie Foster, Hollywood dans la peau, c'est après-demain, dimanche soir à 22h45 sur Arte, et déjà disponible en ligne sur arte.tv.
Et puis en France, France 2 va adapter le livre de Marc-Olivier Fogiel, Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?
On met sous forme de téléfilm, un téléfilm sur la GPA, la gestation pour autrui, librement adapté des témoignages du livre de Marc-Olivier Fogiel. Il s'appellera L'appel des cigognes, l'histoire de deux couples, l'un homo, l'autre hétéro, qui ont un point commun, vouloir à tout prix fonder une famille. Le tournage a commencé il y a quelques jours avec notamment l'actrice Sophia Essaïdi.
Merci beaucoup Antoine Janton, merci Louise Bernard. À demain,
lundi.
Pour un nouveau lundi.
Je
me suis dit, faut pas que je me gourre, faut bien que je dise lundi. Bim, j'ai dit demain.
En plus, il fait beau tout le week-end, on n'est pas là. Hein.
Voilà, merci pour ce point météo. Louise Bernard, elle fait les audiences et la météo. Dans un instant, notre info média du jour qui va s'intéresser à Braqueur, un documentaire qui montre le parcours de 6 ex-bandits condamnés à de lourdes peines de prison. On en parle avec sa co-réalisatrice Delphine Signé et l'un des témoins, Khaled Miloudi. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média. L'émission de référence sur les médias. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Les braqueurs font partie de ces criminels qui intriguent, voire fascinent les médias. À chaque affaire, au cours des dernières décennies, les articles et les reportages ont été très nombreux, sans compter les dizaines de films qui leur ont été consacrés, films de fiction et films documentaires. Ceci dit, les témoignages d'anciens braqueurs ne sont pas si fréquents que ça, c'est un euphémisme. Leur parole est très rare, ils refusent souvent de s'exprimer, encore plus à visage découvert. Et pourtant, c'est ce que font 6 d'entre eux dans un documentaire diffusé par M6, doc en 2 épisodes, dont le premier passera après-demain. Soir dimanche. Bonjour Delphine Signé.
Bonjour.
C'est vous qui avez écrit et co-réalisé avec Benjamin Chabot ce documentaire intitulé « Braqueur au pluriel », doc produit par Karine Lemarchand, on va y revenir. Bonjour Khaled Miloudi.
Bonjour.
Vous êtes l'un des 6 braqueurs qui témoignent dans ce film, film qui parle de quelques braquages, mais qui s'intéresse surtout au parcours de ces anciens bandits, à leur enfance, à leur motivation, à leur rédemption également. Delphine Sirnier, qu'est-ce qui différencie votre documentaire de ceux tournés sur le sujet? Je pense notamment à celui qui était passé sur Vice TV il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-ci, Braqueur?
Alors là, vous me posez une colle parce que je n'ai pas vu celui sur Vice TV.
Ouais.
Moi, j'ai tenu à être dans, pas l'émotionnel, mais dans le personnel. Mmh. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans des faits, de dire, voilà, le braquage, il s'est passé ça, etc., j'ai décidé de privilégier leur parcours, d'être dans l'introspection. En fait.
Dans l'introduction, il y a déjà un pacte que vous avez passé avec ces ex-braqueurs. Je le précise, ce sont des ex-braqueurs. Ils ne vont pas aller se faire une banque en sortant de ce studio. Quel est ce pacte ?
Le pacte, c'était la sincérité et la loyauté.
Voilà. Et le fait de ne pas juger les
gens.
Et
de ne pas les juger.
Ouais.
De ne pas les juger, oui.
Qu'est-ce qui vous a décidé, vous, Khaled Miloudi, à parler, à témoigner à visage découvert? Contrairement à ce qu'on voit ici, je m'adresse aux gens qui nous regardent sur Europe.fr où nous portons le masque. Dans le doc, on voit votre visage, vous ne portez pas de masque. Qu'est-ce qui vous a fait accepter ce documentaire assez exceptionnel, il faut bien le dire?
Ben, tout d'abord, ça n'a pas été facile, parce qu'il y a beaucoup de pudeur quand on parle un peu de son passé ou des actes qu'on a posés. Mais Delphine a réussi à créer une relation de confiance avec nous, avec moi en particulier, et la parole a été plus facile. Alors j'ai voulu témoigner parce que je rejoignais un peu l'idée du départ de ne pas enfermer quelqu'un dans son passé. Et donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais aussi de démontrer aussi le contraire, et aussi... comme je suis dans une dynamique et un état d'esprit de transmission pour les jeunes et les moins jeunes, je pense qu'un témoignage de l'intérieur, et aussi pour ceux qui sont encore dedans, qui espèrent aussi une main tendue, une chance comme moi j'ai eu.
Khaled était encore incarcéré lorsque je l'ai rencontré.
Vu avec des images très fortes, parce que vous avez obtenu l'autorisation de tourner à l'intérieur même de la prison. Alors, le passé, vous en parlez quand même, puisque vous parlez évidemment de l'enfance, on va commencer par cela. Enfance qui a souvent été difficile pour ces ex-braqueurs. Exemple, avec celui qui ouvre le premier épisode, c'est un homme condamné à 18 ans de prison, il s'appelle Nunzio Scarcella.
C'est élevé par nos grands-parents, mon petit frère et moi. Notre mère était très absente, oui. Très, très absente. Non, pas bon. Pas bon, maintenant, encore une fois.
C'est ton problème ?
Elle n'a pas fait son job. Elle n'a pas fait son job de mère. Si je devrais la décrire, c'est pas une bonne personne du tout. Malgré sa belle tête devant les gens, c'est pas une bonne personne du tout. Non.
Nunzio Scarcella a commencé à voler à l'âge de 7 ans. Il est happé alors par le milieu criminel. Est-ce que vous aussi, Khaled Miloudi, vous avez eu une enfance difficile ?
Oui.
De quelle manière raconter, oui, pour ceux qui n'ont pas vu le film ?
D'abord, il y a eu l'exil, puisque je suis arrivé d'Algérie à l'âge de 6 ans. Et puis après, il y a eu une quinzaine de déménagements. Donc une instabilité sociale et affective, puisque j'ai été placé très tôt en famille d'accueil et puis après en foyer.
10 frères et sœurs et un papa violent.
C'est ça, analphabète aussi, et qui a été encore victime de la Seconde Guerre mondiale. Il n'était jamais sorti un peu de ce traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'était ma militaire de carrière. Mm-hmm. Donc une violence familiale intrinsèque, et puis après la délinquance, la rue, l'école de la rue, et puis après la première peine de prison qui a été le tournant de ma trajectoire.
Est-ce que c'est un peu la cause, la clé de ce documentaire et de l'intérêt que vous avez porté, Delphine Sirnier? Car nous vous avions reçu il y a 4 mois pour un documentaire sur le burn-out parental, donc encore des histoires de parents et d'enfants. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce documentaire sur les braqueurs et les ex-braqueurs?
Au départ, j'ai eu très peur d'eux. Très, très peur d'eux. Parce que d'être aussi proche de quelqu'un qui a été violent, qui est violent, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Et puis au final, la seule chose, après c'est toujours le thème que j'aime aborder, mais la seule chose qui les a rendus pour moi attachants, c'est leur enfance. Alors ça n'explique pas tout, parce qu'il n'est pas question de dire lorsqu'on a une enfance difficile, on bascule forcément dans le grand banditisme.
Et Khaled dit justement que ses frères ont des parcours très différents de lui, alors qu'ils ont, vous avez de fait les deux mêmes parents.
C'est pas une excuse, mais c'est le premier ingrédient.
On va revenir au documentaire. Les ex-braqueurs évoquent certains de leurs braquages. C'est le cas de Gérard Serin, condamné lui à 30 ans de prison pour des attaques de banque.
Ça va se passer d'une manière, si c'est bien fait, que personne ne va se rendre compte de rien à l'extérieur. J'ai fait des hold-up dans plein Paris, à Opéra ou sur les Champs-Élysées. à 9h15 du matin, 9h30 du matin. Hein. 9h30 du matin, à 20 mètres de la banque, il y a les flics. Quand vous rentrez, il y a rien à la faute du flic. Hein. Vous comprenez? J'ai fait des braquages, on partait en métro ou en bus après, moi. Et voilà, ça s'apprend, hein. Tout ça. Faut faire l'entraînement, hein. Vous savez, le braqueur, il espère qu'il n'y aura jamais personne dehors. Si vous avez préparé votre dégagement bien comme il faut, normalement, il vous arrive rien, hein. Il attrape pas.
Khaled Miloudi, il faut de l'entraînement pour être braqueur?
Je crois que l'entraînement, moi, ça a été la prison, hein, ça a été l'école. C'est là que j'ai trouvé une pseudo-famille. Je suis arrivé en rupture sociale, affective, et donc tout est parti de ma première peine de prison. J'avais 18 ans et demi, je sortais de l'armée, et c'est là que tout s'est fait, quoi.
Pour faire le lien avec ce que disait, Gérard Serin, la prison, on se construit émotionnellement, mais la technique de braquage, comment braquer une banque, moi j'en serais bien incapable, on s'entraîne. Comment est-ce qu'on apprend ces choses-là? Comment est-ce qu'on apprend la technicité?
C'est toujours avec un ancien. C'est toujours un ancien qui vous apprend le boulot.
Combien de temps vous prépariez? Vous dites dans le doc que vous travailliez un ou deux jours par an, c'est-à-dire un ou deux braquages par an. Combien de temps vous passiez à préparer ceux que vous avez commis?
Tout dépend de l'objectif, mais ça pouvait être 3 mois, ça pouvait être 6 mois, ça pouvait être 1 an.
Donc c'était quand même 3 mois de travail ou 6 mois de travail, même si ça dure, parce que c'est comme si vous prenez un coureur de 100 mètres, il court pendant 10 secondes, mais il s'est préparé pendant 2 ans. Mais c'était 3 mois à 6 mois de travail. Delphine Signé, à partir de quelles informations vous avez travaillé? C'est ce qu'on veut savoir, c'est la question qu'on va vous poser dans un instant. On parle de braqueur, ce doc qui passe dimanche sur M6 à 23h30, doc assez exceptionnel, je l'ai dit, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h, Philippe Vandel. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Delphine Signé, co-réalisatrice de Braqueur, documentaire en 2 parties. Le premier épisode, ce sera dimanche sur M6 à 23h20. Et le second épisode sera le dimanche suivant, le 20 juin, toujours à 23h20. Dans le documentaire, Delphine Signé, les interviews sont entrecoupées de scènes de braquage, des attaques reconstituées et qui ont l'air, de mon point de vue, de novices très réalistes. À partir de quelles informations avez-vous travaillé?
Alors c'est très difficile d'avoir des informations exactes quand il s'agit de reconstituer des scènes de braquage, surtout quand on n'a jamais braqué de sa vie. Hein. Donc avec Benjamin Chabot, mon co-réalisateur, on a eu à un moment donné, on s'est senti peut-être un petit peu dépassé et on voulait vraiment être réaliste. Parce que pour être à la hauteur de vos propos, on voulait être des propos des braqueurs, on voulait être réaliste. Et donc c'est un braqueur qui fait partie du deuxième épisode, qui s'appelle François Trouquins, qui est aujourd'hui réalisateur de films, hein, de fiction, réalisateur à succès même, qui nous a prêté main forte en s'investissant dans toutes les scènes d'action de braquage. Et donc elles sont très réalistes, réalisées par lui.
Qui détonne un petit peu au milieu de ces braqueurs et qui a une histoire personnelle d'enfance absolument incroyable, puisqu'il a souffert une sorte de martyr pendant son enfance, mais inversé. Ses parents étaient des gens plutôt de la haute classe en Belgique, mais ils sont partis faire un retour à la nature, vivre dans une roulotte avec des pulls tricotés main, et ils se sentaient complètement délaissés par ses petits camarades, et donc il en a conçu une immense rancœur, même si, comme vous l'avez dit, ceci n'explique pas tout. Comment vous les avez choisis, ces ex-braqueurs, dont Khaled Miloudi, qui est ici avec nous dans ce studio?
Alors, ça a été... Déjà, l'idée du documentaire est une idée de Karine Lemarchand. Donc, à la base, c'est elle qui les a choisis. Mmh. Voilà, qui les a tous choisis, à l'exception de 2, dont Khaled, que j'ai rencontré, puisque lors de notre... quand Karine Lemarchand m'a confié ce projet, il y en a un qui a récidivé, qui a braqué, et donc qui s'est retrouvé en prison. Il y en a un qui ne fait pas partie du documentaire, parce qu'il est de nouveau incarcéré, en fait.
Et il faut dire, il y en a qui ont été accusés de tentative de meurtre, aucun n'a tué personne.
Aucun n'a tué.
Au moment du tournage, Khaled Miloudi, vous étiez encore à la prison de la santé, dans un régime de semi-liberté. Ça a été difficile de faire accepter les caméras et vous-même que l'administration vous laisse parler face caméra?
Très difficile, je pense que les plâtres, c'est Delphine qui les a essuyés, presque un an à faire du forcing.
Ça a été un enfer pour l'avoir. Ça a été un enfer. On a marché sur les mains pour l'avoir. On l'a rencontré via une association, on s'est écrit des lettres, on s'est appelé en secret pendant 3-4 mois.
Il y a des téléphones en prison?
Ah, je sais pas, on a le droit de le dire ou pas, Khaled?
Bah maintenant, c'est fait, il y a prescription et vous êtes libre maintenant.
Oui, c'est un secret de polichinelle.
Voilà. Façon. Mais vous pouviez téléphoner à Delphine depuis la prison.
C'est ça.
Ouais. Mais dans certaines circonstances, parce qu'il y a des heures, tu avais des heures pour téléphoner, il y a une cellule où on téléphone, enfin bon, c'était compliqué. Mmh. Et surtout, ça faisait très longtemps que j'avais pas reçu des lettres manuscrites. Hein, c'était assez romantique au final. Et on a mis 6 mois avec l'administration pénitentiaire. Et l'administration pénitentiaire a fini par accepter de nous laisser filmer Khaled à la santé.
Cette autorisation a permis de vous suivre, Khaled Miloudi, dans les tout premiers jours de votre régime de semi-liberté. Régime qui vous a été accordé parce qu'entre autres, vous aviez trouvé un emploi, chauffeur-livreur, extrait du doc.
C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment de franchir ces portes comme ça tout seul. On en a rêvé pendant des années. Et puis, puis aujourd'hui, bah, c'est la réalité. Bonjour, on s'oriente. C'est bon. Bonne journée. À ce soir. Voilà, la dernière porte. Voilà, le sésame, ouvre-toi. C'est la plus lourde aussi. Hein.
On vous voit à l'image avec votre sourire, votre visage qui s'éclaire. C'est une forme de rédemption, de réinsertion. Qu'est-ce qui vous a fait changer de voie en prison ?
Énormément de choses. D'abord, la résilience. Je crois que j'avais ça. J'en ai parlé avec une psy. J'avais ça en moi. J'ai mis des mots après dessus. Et puis, bien sûr, mes enfants. Mes enfants m'ont porté. Je suis père de famille.
Ouais.
J'ai 6 enfants. Et autant, ça a été mes plus grandes souffrances. Et ça a été aussi mes plus grands bonheurs. C'est ce qui m'a permis de tenir au moment. C'est ce qui m'a évité aussi de m'accrocher. Hein, parce que ça m'a traversé l'esprit au début de ma peine.
Ouais.
Et puis après, les rencontres. Le travail que j'ai fait sur moi, d'abord, que j'avais jamais fait. Mes enfants. Et aussi, je crois que l'autre partie, c'est les belles rencontres que j'ai faites. Ma prof de littérature et de théâtre, Aude Siméon, pour la citer. Et puis un éditeur poète qui m'a transmis sa passion, que j'avais déjà en moi pour la poésie. Et l'écriture, bien sûr, puisque l'écriture m'a sauvé quelque part un peu. Les mots, comme Jean Genet, m'ont un peu sauvé. Ça m'a permis de... Ben, que le temps jouait pour moi, à l'inverse. J'avais plus cette oppression du temps. J'écrivais 6 à 8 heures par jour.
J'ai appris ce chiffre dans le documentaire « Je n'en revenais pas ». Donc j'ai appris que vous étiez minoritaire, Khaled Miloudi, en tout cas que votre cas l'était, puisque 61% de ceux, donc davantage que la majorité, 61% de ceux qui ont connu la prison ferme récidivent dans les 5 ans qui suivent leur sortie. Delphine Signé, le moment le plus émouvant du tournage pour vous, j'imagine, c'est quand Khaled retrouve ses enfants.
Oui.
Racontez ce moment. Elle en perd les mots, je dois dire ce qui se passe dans le studio. Delphine perd les mots, et elle a les larmes qui lui montent aux yeux et elle ne dit plus rien. Comment se sont passés vos échanges avec eux, sinon au-delà de ça c'était... Je vais poser une question à Khaled parce qu'elle n'arrive plus à parler. Khaled Miloudi, vers où vous regardez aujourd'hui? Quel est votre quotidien aujourd'hui? C'est quoi votre métier? Qu'est-ce que vous faites?
Je suis passé de chauffeur, je suis passé responsable du parc, ouais. Voilà, dans la société où je travaille. Je suis en train de préparer une réorientation professionnelle dans la culture.
Mm-hmm.
Voilà, comme je vous ai dit, je suis animé de cette dynamique et de cet esprit de transmission.
Ouais.
J'ai vraiment le sentiment profond de pouvoir apporter quelque chose aux jeunes et aux moins jeunes. Okay. Et je crois qu'après mon parcours, tout est possible.
Plaisir d'entendre ces mots. Vous avez quel âge ?
J'ai 61 ans.
Donc la retraite à 60 ans, ce n'est pas pour vous. Vous avez envie, si des gens nous entendent et envie de vous faire travailler, vous aimeriez travailler dans quel domaine ?
Dans le domaine de la culture. J'aimerais bien aussi essayer de créer un partenariat peut-être avec la Fondation M6,
ouais.
pour apporter mes plus-values dans la culture, pour apporter mon témoignage et mon expérience.
Voilà, moment très 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 émouvant. Je ne sais plus quoi dire, Delphine, je vais vous libérer. Merci d'avoir signé, co-signé ce doc qui s'appelle Braqueur. Le premier épisode, c'est après-demain dimanche à 23h20 sur M6. Le second, dimanche suivant, le 20 juin à la même heure. Merci Delphine Signé, merci Khaled Miloudi. Et je dois le dire, c'est la voix off de Karine Lemarchand qu'on entend dans ces 2 épisodes. Karine, qui
c'est
est également la productrice.
Idée, oui.
C'est son idée et c'est sa production. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, nous sommes avec 2 des commentateurs de TF1. Julien Brun et Sabrina Delannoy. Et c'est un petit événement. Elle va nous dire si oui ou non, ou si c'est quelque chose de complètement normal, puisque c'est la première fois qu'une femme sera consultante dans des gros matchs de garçons sur une grande chaîne hertzienne. Culture Média continue. À tout de suite, moi aussi je suis ému.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture Média. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vondel.
Bonjour Julien Brun.
Bonjour Philippe Bordel.
Julien Brun, vous êtes journaliste sportif, vous êtes venu de RFI, passé par Bein Sport, puis Feu, la chaîne Téléfoot. Bonjour Sabrina Delannoy.
Bonjour.
Vous remarquez mon élégance, que j'ai commencé par le garçon. Vous êtes ancienne joueuse internationale. Votre club de cœur, c'est le PSG. Vous avez joué de 2005 à 2017, c'est bien ça?
Tout à fait.
5 fois vice-championne de France. Vous êtes partie et là, elles ont réussi à être championne.
Oui.
Alors qu'avant, c'était toujours mieux. Vous avez déjà été consultante pour TF1. C'était lors de la Coupe du Monde féminine. C'était en 2019. C'est la première fois qu'une femme est consultante pour des grands matchs masculins sur une grande chaîne, car vous allez être la deuxième paire, si j'ose dire, en plus de Margoton, Lisa Razou. Est-ce que le fait que vous soyez consultante pour des matchs de l'Euro, c'est un événement ou un non-événement?
Je pense que c'est un événement, parce que c'est vrai que ça fait pas mal parler.
Ouais.
Après, moi, j'aimerais que ça devienne quelque chose de tout à fait normal, banal, et qu'on en parle de moins en moins, de pouvoir avoir une femme qui commande des matchs masculins. Il y a déjà des femmes qui le font, mais c'est vrai qu'on aimerait que ça devienne complètement banal. Et si les compétences sont là, je pense que les femmes méritent tout autant que les hommes de se retrouver à ces postes-là.
On est absolument d'accord. Vous allez couvrir quel match?
On va faire d'abord Angleterre-Écosse,
ouais,
en match de poule. Et puis, on aura un huitième de finale, voire un quart de finale pour la suite.
Ouais, ça sera le 18 juin. Julien, vous connaissez bien le foot anglais, vous avez commenté pendant 3 ans la Première Ligue, c'est bien ça?
Oui, notamment. Après, j'ai fait beaucoup de coupes en Angleterre. On va aller à Wembley, ce sera des retrouvailles en fait pour moi. J'y suis allé un paquet de fois, donc vraiment c'est super d'avoir ce derby à vivre et à commenter pour nous. Ouais.
Pour la première fois de son histoire, l'UEFA 2021 va se dérouler déjà en 2020 va se dérouler en 2021. L'Euro aux quatre coins de l'Europe, ça sera du 11 juin au 11 juillet. Dans quelles conditions sanitaires, pardon de poser la question, est-ce que vous êtes vacciné? Est-ce que vous allez devoir faire des tests PCR à chaque match? Comment ça va se passer?
Pour le moment, ça dépendra aussi des pays où on va.
Ouais.
Donc pour le moment, on a une lettre pour nous permettre d'entrer sur le territoire anglais. Certainement, des tests PCR seront nécessaires pour pouvoir se rendre sur certains territoires, effectivement.
C'est un truc qui change vraiment tous les jours,
ouais,
hein, d'une
ouais,
certaine manière. En fonction des pays, en fonction du jour, c'est plus exactement la même chose. Il y a l'arrivée du variant appelé indien, etc., quoi, qui a pas mal changé les données. Donc, on vit ça un peu de loin. Ce qui est dur, c'est vraiment pour les gens de la prod, notamment à TF1, qui sont obligés au quotidien, limite, de changer les plans, les voyages, etc.
Et puis les jauges ne sont pas les mêmes dans les stades. Il y a des stades où c'est à 20%, 25%. En Angleterre, j'ai regardé Wembley, c'était 25%. Et si je me souviens bien, c'est en Hongrie, c'est 100% dans le stade.
Oui, et puis ça va évoluer même au fur et à mesure de la compétition. En Angleterre, ils sont sur une montée graduelle pour essayer d'arriver à la fin de la compétition à avoir quasiment Wembley à 100%. Mais déjà, Wembley à 25%, ça permet quasiment d'avoir 20-25 000 personnes. Hein. Donc ça change complètement la donne par rapport à ce qu'on a connu depuis 18 mois, à savoir une ambiance où ça sonne un petit peu creux. Là, ça va être rempli. Surtout que, d'expérience, on a vu que dans les stades où désormais il y avait un peu de monde, même si vous n'avez pas le stade complet, les gens sont tellement heureux et se sentent tellement chanceux d'une certaine manière d'être là, que l'ambiance de 5000 personnes fait celle de 25 000 d'habitude, donc celle de 20 ou 25 000, ça va faire celle de 200 000 en gros, quoi.
Comment ils vont répartir les gens dans les stades? J'ai lu un tweet de je ne sais plus qui m'a beaucoup fait rire et beaucoup fait réfléchir. Vous savez qu'à Roland-Garros, il y a une jauge limitée, seulement tous les spectateurs sont au même endroit. Donc en fait, ça revient exactement au même. Non, oui, mais c'est vrai, non, il faut les répartir dans les gradins, les spectateurs, si on veut les séparer les uns des autres.
Ouais, même si je pense que c'est fait, la jauge n'est pas faite que dans le stade d'une certaine manière, parce que dans le stade vous êtes quand même à l'air libre, c'est un peu moins gênant qu'il y ait une grosse concentration. Alors c'est vrai qu'au Stade de France c'était particulièrement prégnant l'autre jour, mais il n'empêche que ça compte aussi par rapport au transport en commun, par rapport à la manière dont les gens font la queue pour rentrer dans le stade. Donc la jauge, elle n'est pas là que non plus pour le moment du match.
Alors, gros dispositif sur TF1 qui va se partager les matchs avec M6. Je vais donner déjà les infos de base. Déjà, ça démarre ce soir, l'Euro de foot. Turquie-Italie, c'est à 21h sur TF1. Il y aura sur TF1 Espagne-Suède, Angleterre-Écosse, Hongrie-France et Finlande-Belgique ou alors Russie-Danemark. Ça fait trop de matchs, vous verrez ça sur Internet. En revanche, il y a un gros dispositif mis en place par TF1. Sabrina Delannoy, vous pouvez donner les grandes lignes. Vous le connaissez, le dispositif de TF1?
Oui, je connais les grandes lignes. Julien pourra m'aider si j'oublie des choses. Mais oui, il y aura un mag donc, animé par Denis Brugnard, accompagné aussi de consultants de luxe avec Nathalie Yaneta, Yuri Djorkaeff et Ludovic Giuli,
ouais,
donc qui vous donneront tous les... Tout, tout le débrief de chacun des matchs. On aura aussi 5 téléfoot très particuliers avec Frédéric Callange qui animera ces téléfoot depuis Clairefontaine ou depuis le camp de base des Bleus. Et puis on a aussi pas mal d'animations et d'émissions sur le digital avec une quotidienne et aussi des vidéos sur YouTube avec Thomas Mekich. Ouais. Voilà, je ne sais pas si Julien, tu veux compléter.
Oui, il y a ça. Il y a aussi Marine Marc qui interviendra quasiment au quotidien pour donner l'actu des Bleus sur TF1. Mmh. Voilà, enfin, il y a vraiment, on sent une émulation. Et, alors déjà, TF1, c'est le service des sports, c'est une famille d'une certaine manière. Donc, il y a un truc qui se passe et depuis quelques semaines, on sent que c'est en train de monter. Donc là, aujourd'hui, avec le match et la cérémonie d'ouverture pour démarrer, on rentre vraiment tous de plein pied dedans. Et tout le monde est vraiment souriant. Enfin, on s'est vu il n'y a pas longtemps et c'était vraiment, vraiment très sympa.
Ah bah tiens, justement, Sabrina et Julien, vous vous connaissez depuis combien de temps ?
On se connaît depuis qu'elle était joueuse, ouais. Mais à l'époque, bon, on se connaissait, mais moi, je l'ai commenté en fait hein, plusieurs fois quand elle jouait en Ligue des Champions.
Vous avez réécouté les matchs.
Mais j'ai pas réécouté, mais je devrais peut-être.
Non, je tacle ou peut-être pas. Beaucoup moins bien qu'elle. Hein, ouais, donc de toute façon, c'était elle.
Vous étiez défenseuse. défenseuse. Comment vous allez travailler ensemble ? Est-ce que vous avez déjà fait un pilote tous les deux ?
Alors, on n'a pas encore fait de pilote, mais justement, on a lundi, il y a 2 matchs en fait au cours desquels on va faire piloter tous les deux. Enfin, je serai son copilote, hein, elle pilote et je serai à côté d'elle. Donc on a 2 matchs sur lesquels on va se mettre ensemble pour travailler ensemble. Après, c'est pas comme si on se connaissait pas du tout, on a des amis communs, on s'est déjà vus, etc. Et on discute pas mal depuis quelques temps. Tiens, regarde, il y a le match de l'Angleterre qui passe sur l'équipe, regarde, etc. Et donc on a 2 matchs pour se mettre bien raccord.
Il faut dire que c'est vous qui allez faire le commentaire de ce qui se passe sur le terrain et vous, Sabrina, qui allez faire les éclairages, plus un rôle de consultant technique. Julien Brun, vous étiez célèbre pour votre duo avec Bruno Chéroux sur Bing. Ça vous fait sourire. Vous allez devoir travailler différemment avec elle.
Non, sur
alors
le
attendez, je vous dis ça parce que à France Football, octobre 2018, oula, vous avez révélé que pour l'arrêter, vous lui mettiez un petit coup sur la cuisse. Vous savez que c'est pas possible de faire ça avec une femme.
Bah, on fera peut-être un petit coup de stylo dans le bras ou un truc comme ça, mais oui,
un petit coup de coude, ça suffira.
Hein, un petit coup de coude.
Voilà, très bien.
Voilà, mais ça se passait comme ça, vraiment, on peut le dire.
Oui, mais il y a beaucoup de jeux de regard hein, entre un commentateur et un consultant ou une consultante. Donc, ce sera d'abord le regard, et si de temps en temps il y a besoin, je ferai des gestes, mais effectivement, je serais peut-être un peu moins brusque ou un peu moins familier que j'ai pu l'être avec Bruno. Ouais. Et Bruno, on a des années de couple en commun en même temps, donc on pouvait se permettre aussi plus de familiarité.
Il nous envoyait un SMS, il a encore des bleus. Non, c'est bon.
Sabrina des cuisses, ça doit aller. Hein.
Sabrina Delannoy, Julien Brun sont avec nous. Je ne vous ai pas demandé comment ça se passe vraiment techniquement avant chaque match, comment vous travaillez. Culture Média continue, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Il n'y a pas que Margoton et Lisa Razou à TF1, il y a également Julien Brun et Sabrina Delannoy. C'est le nouveau duo de commentaires et de consultantes pour l'Euro 2020 qui commence ce soir, donc en 2021. C'est pas le moindre des paradoxes. Comment vous avez travaillé, Julien Brun ? Vous êtes fait des fiches ? Comment on prépare un match ? Comment vous faites-vous ?
Oui, moi j'ai une sorte de routine à ce niveau-là, en fait. Quel que soit le diffuseur, quel que soit le match, j'ai un petit peu des systèmes. Alors, c'est pas très compliqué, hein, mais j'ai un tableau Word dans lequel je remets exactement le nom de l'équipe, le palmarès, le stade, enfin beaucoup d'infos sur l'équipe. Après, pour chacun des joueurs, chacune des joueuses, des stats individuelles, des infos, des trucs. Voilà, c'est vraiment une routine qui est presque parfois ennuyeuse à faire d'une certaine manière, mais qui est indispensable pour se rentrer les trucs dans la tête. Donc je vais chercher les infos à droite, à gauche. Bon, là en l'occurrence, quand c'est des équipes étrangères, c'est plus difficile d'appeler les joueurs ou les entraîneurs, mais voilà, il y a beaucoup d'infos un peu partout. Il faut faire le tri et je m'astreins à n'avoir que 2 feuilles par équipe, parce que sinon vous avez un livre et vous ne savez plus où donner de la tête. Donc voilà, j'ai 2 feuilles par équipe et ensuite, une fois que la compo sort, je me note tout sur une autre fiche pour avoir hop, l'info qui doit sortir au moment où il se passe quelque chose.
Même question, Sabrina Delannoy, comment vous allez travailler ? Vous faites des plans de jeu ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous avez avec vous ? Qu'est-ce que vous vous préparez ?
Moi, oui, c'est plutôt des plans de jeu, effectivement, de savoir dans quel système jouent les équipes de manière récurrente, et puis aussi de savoir à quel poste joue chaque joueur pour quand il y a un changement, etc. Et après aussi, j'insiste un petit peu, je regarde des matchs pour connaître le profil technique de chaque joueur et quelle stratégie sur les coups de pied arrêtés, etc. ils mettent en place. Donc c'est plutôt, on va dire, technique et tactique sur mes fiches. stratégie.
Il faut avoir tout ça frais en tête ou au contraire s'y prendre à l'avance. Vous avez déjà commencé à regarder comment jouait l'Écosse, comment jouait l'Angleterre ou pas encore?
Oui, j'ai commencé à regarder les effectifs.
Hein.
Ouais, exactement. Ouais. Donc il y a des matchs amicaux, c'est parfait en ce moment.
Vous avez joué au foot à très haut niveau, au PSG, je l'ai dit, de nombreuses années, en équipe de France. Combien de sélections en équipe de France?
39, je crois.
C'est ça. Julien
Brun connaît mieux la carrière de Sabrina Delannoy que Sabrina Delannoy. Avant le match, dans quelles circonstances est le plus le trac? Avec les crampons ou avec le micro?
C'est la même chose pour moi. Je le vis de la même manière et c'est pas vraiment du stress, c'est plutôt une espèce d'adrénaline et une hâte d'y être. Et une fois que ça commence, c'est voilà, le côté spontané, prendre du plaisir et essayer de donner de l'émotion et du plaisir aux téléspectateurs.
Voilà, à la différence, c'est qu'avec le match, on ne peut pas se faire sortir par un carton rouge. Sabrina Delannoy, comment s'est faite la rencontre avec TF1? Comment vous êtes arrivée comme consultante sur la chaîne? Je rappelle, c'était lors de la Coupe du Monde des filles en 2019.
Ben on a proposé ma candidature à TF1 quand ils étaient en train de monter le dispositif pour la Coupe du Monde féminine. Moi, j'étais consultante chez Eurosport, là où j'ai débuté. Et j'ai eu la chance de commenter cette Coupe du Monde avec Christian Jean-Pierre, qui a été aussi une très belle rencontre et pour moi une expérience incroyable pour aller justement acquérir cette expérience et pouvoir... m'amuser avec lui sur les antennes de TF1.
Voilà, parce qu'il faut pouvoir aussi s'amuser quand on fait une émission, c'est sérieux, en même temps il faut être un peu détendu. Julien Brun, vous avez démarré au sport sur RFI.
Oui, notamment.
Vous êtes allé ensuite sur Bing Sport, vous étiez une des voix de Bing avec Christophe Josse et Alexandre Ruiz, notamment. En 2018, vous aviez été élu par les électeurs de France Football, 36 000 votes, c'est le masque.
Ouais, ça aurait été douloureux quand même. Là.
Troisième meilleur commentateur télé, comment vous l'avez pris?
Très mal.
Ouais, j'imagine.
Non, mais c'était j'étais très, très content. Surtout, enfin, je suis pas forcément le plus connu, donc c'était agréable d'être parmi les gens qui étaient cités. Donc,
c'est justement pour ça que je pose la question. Et puis, vous avez tenté l'aventure Média Pro avec la chaîne Téléfoot. Alors, Média Pro, je rappelle, c'était ce conglomérat moitié chinois, moitié espagnol qui avait raflé les droits du foot français pour plus d'un milliard avant d'abandonner tout le monde en race campagne et mettre tout le monde à la porte, y compris les abonnés, mais aussi les salariés. Comment vous avez vécu cette épreuve?
C'est compliqué de dire. Je l'ai vécu un peu mal, évidemment, puisque c'était un projet pour lequel j'avais fait le pari d'y aller, quoi, parce que je l'ai fait par passion, en plus d'une certaine manière. Enfin, j'imagine que vous connaissez comment ça se passe, Philippe, mais on ne double pas son salaire hein, quand on part d'une chaîne à une autre. Donc on fait un pari et on le fait parce qu'on a envie de continuer à commenter des choses qui nous plaisent. Voilà, j'ai fait la Ligue 1 pendant très longtemps sur Bein. Ils n'ont plus eu les droits, on m'a proposé de partir ailleurs, donc j'ai tenté le coup. Bon, il s'est avéré que ce n'était peut-être pas le meilleur pari du siècle.
Mais c'était douloureux à vivre de l'intérieur.
Oui,
on voyait le bateau en train de couler.
Oui. Il y a eu plusieurs mois pendant lesquels on a senti le truc couler. Mais alors, ce qui était bien d'une autre manière, c'était que j'étais entouré de gens vraiment super. Et donc, on a vécu ça, je ne sais pas, en continuant à chanter, à jouer de la musique, quoi. Donc, il n'y a pas non plus... on a eu le temps de se préparer à la chute et finalement, c'était un peu douloureux, mais ça va.
Puisque vous parliez de salaire, est-ce qu'ils vous ont payé tout ce qu'ils vous devaient?
On est encore en train de discuter, donc c'est pas un souci, c'est pas ça le problème.
Alors j'ai lu que vous n'aviez pas de contrat avec TF1, mais simplement une pige d'un mois pour l'euro. Est-ce que vous confirmez?
Oui, on est en pige pour le contrat, mais voilà, quand ça arrive comme ça, c'est un rebond d'une certaine manière inespéré, donc c'est vraiment super. Et se retrouver en plus avec des gens, je dis pas ça, mais c'est vraiment, il y a un esprit de famille à TF1. C'est une grosse boîte, une énorme chaîne, et les sports, c'est un truc qui est assez incroyable. Tous les gens vous accueillent avec le sourire, en étant contents et tout. Vraiment, il y a ça fait vraiment du bien après ce qui s'est passé il y a quelques mois pour nous. Ouais.
Évidemment, et Sabrina Delannoy, vous n'allez pas me dire l'inverse, vous n'allez pas me dire que l'ambiance est mauvaise au sein des sports de TF1.
J'aurais rien dit si c'était pas le cas.
Voilà, Sabrina Delannoy, vous continuez à jouer au foot ou vous avez complètement arrêté? Ou est-ce que vous jouez au foot avec vos potes?
Non, honnêtement, quand j'ai arrêté il y a 4 ans, j'ai tout arrêté du jour au lendemain et je faisais quasiment plus rien, plus de sport. Et puis là, depuis quelques mois, je suis maman, donc pour le moment, tout est de nouveau entre parenthèses.
J'ai lu que vous étiez mise au yoga. Je me suis dit, quand je vous voyais sur le terrain, je vous imaginais pas en train de faire du yoga tranquille.
si, mais justement, ça permet de canaliser pas mal de choses, le yoga. Donc,
j'ai une dernière question pour Julien Brun. Je sais que votre spécialité, votre petit violon dingue, c'est de prononcer des noms de joueurs avec des noms imprononçables. Dites-moi ce grec au nom imprononçable, je ne suis pas arrivé à l'écrire.
Socratis Papastatopoulos.
Voilà, il va jouer là ou pas?
Pas chez nous en tout cas. Je ne l'ai pas encore dans mes fiches.
Merci beaucoup Julien Brand et Sabrina Delannoy. J'ai beaucoup de choses à dire. D'abord, l'Euro 2020, ça démarre ce soir. Donc en 2021, merci pour le son. C'est Turquie-Italie sur TF1. Votre premier match en direct, ce sera le 18 juin. Écosse-Angleterre en direct de Wembley. Puis je voulais dire qu'Europe 1 va se mettre également à l'heure de l'Euro de foot avec un dispositif assez exceptionnel aussi dès aujourd'hui. 30 soirées tout au long de la compétition avec notamment l'émission Europe 1 Football Club présentée par Lionel Rousseau. Et une nouveauté cette année, un podcast natif avec 2 épisodes par jour. Et également, nous aussi, on a une consultante. Elle s'appelle Aline Riera et nous en sommes ravis. Merci encore Sabrina Delannoy. Merci encore Julien Brun. Culture Média continue. Après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain qui va revenir sur une époque formidable et Bertrand Chameroy pour son écran de veille consacré à des couples formidables. Notre invitée, c'est la chanteuse Clara Luciani. Elle sort son nouvel album aujourd'hui. Il s'appelle Cœur et elle a choisi Culture Média pour le présenter. On va entendre 2 titres. Et puis dans les indispensables, Ondelade raconté en BD et un fruit emblématique de la Côte d'Azur, mais qu'est-ce que ça peut bien être? À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.